France Culture, les matins d'été, Julie Gacon.
À l'origine, il y a une information assez froide. À compter de ce mercredi 1er août, les médicaments anti-Alzheimer ne seront plus remboursés par la Sécurité sociale. Vous l'entendiez dans le journal, les associations de défense des patients dénoncent une mesure inique et infondée. À l'origine donc une information froide, mais qui concerne 900 000 personnes en France, 900 000 malades d'Alzheimer et plus de 3 millions de proches, ce qui s'occupe de rendre moins triste cette lente dérive dans l'espace et dans le temps. Bonjour Béatrice Guret.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes grand reporter au Monde, mais c'est en tant que fille, fille de vos parents, que vous avez publié le livre dont nous allons parler ce matin. La tête qui tourne et la parole qui s'en va, c'est chez Robert Laffont. Le récit de la découverte et de l'accompagnement de la maladie d'Alzheimer qui a frappé et votre père et votre mère, Pierre et Lily, les deux en même temps, les deux ensemble. C'est une concordance assez rare d'ailleurs dans les familles.
Oui, je dois dire que ça a été un manque de chance un peu supplémentaire, cette simultanéité. Les signes étaient présents, vous ne les voyez pas toujours d'ailleurs. On met un certain temps à comprendre que la maladie est vraiment là. Et paradoxalement, ma mère était déjà plus atteinte que mon père alors que ça se voyait plus chez lui.
Alors quand vous entendez pour la première fois prononcer le mot anosognosie, ce n'est pas de la bouche d'un médecin qui vous aurait fait le diagnostic de la santé de vos parents, c'est le mot que la médecine met sur l'état de santé d'un ancien président de la République, nous sommes alors en 2011.
Jacques Chirac, voilà, absolument.
Et vous êtes en train de travailler sur Jacques Chirac.
Je suis en train d'écrire un livre sur le clan Chirac, sur cette famille qui a été au pouvoir pendant tant d'années. Et le président a une maladie neurodégénérative dont sa femme Bernadette dit que ça n'est pas Alzheimer, mais c'est probablement une maladie voisine. J'ai découvert qu'il y avait un grand nombre de maladies neurodégénératives, comme la maladie à corps de Lévy, etc., ce que, évidemment, je ne savais pas. Et le président est frappé, de surcroît, d'anosognosie, donc qui est un mot grec, qui signifie que vous ne connaissez pas votre état, vous ne savez pas que vous êtes malade.
Et c'est en écrivant sur ce vieux président dont l'esprit s'évade vers des rives inconnues, comme vous l'écrivez, que vous allez vous rendre compte que votre père ne comprend plus ce qu'il voit. C'est en 2013 que vous allez, non pas tout de suite faire le lien entre cet état d'inconscience et la santé de vos parents, mais que vous allez soupçonner en tout cas que quelque chose ne va pas.
Entre quelque chose ne va pas et la maladie est là, il s'écoule souvent beaucoup de temps. Parce que je pense qu'on ne veut pas voir, parce que les examens qui doivent être conduits, c'est-à-dire à la fois l'examen par un neurologue ou un gériatre, des examens, des IRM qui permettent de constater dans le cerveau que des protéines se sont anormalement déposées, que certaines parties du cerveau ont rétréci, que les neurones ne fonctionnent plus, ne se reproduisent plus. Entre ces deux états, il s'écoule du temps aussi parce que, je pense, les médecins traitants ne sont pas toujours bien avertis de ces symptômes et de la façon dont il faudrait accompagner ces patients. Ajoutons à cela la vie moderne, entre guillemets, qui fait que souvent les personnes âgées partent passer leur retraite sous des cieux plus cléments, qu'ils sont dans le sud, que nous les enfants on est dans le nord, on est à Paris, on travaille. Donc voilà, il y a un certain nombre de facteurs à la fois sociologiques, médicaux, qui font que on ne s'aperçoit pas tout de suite que la maladie est là.
Alors, à l'été 2014, vous avez de plus en plus l'impression que l'énorme vague du peintre japonais Okusai, qui figure sur leur calendrier acheté au musée Guimet, les a submergés. Ils ne mangent rien, écrivez-vous, leur frigo est toujours vide, maman part faire du vélo avec un foulard en soie et des mocassins de ville. Le diagnostic n'a pas été posé, le mot Alzheimer ne sera prononcé que 8 mois plus tard. 3 petits singes se sont bouchés les yeux, les 3 petits singes sont leurs 3 enfants.
Voilà, c'est mon frère, ma sœur et moi. Et pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, et aussi parce que je pense que dès le départ, on n'est pas assez accompagné On ne comprend pas. Il y a évidemment tout un corpus de choses médicales qui vous échappent. Et d'ailleurs, moi, je ne les ai comprises qu'a posteriori, en écrivant ce livre. Parce que vous êtes tellement dans une forme de panique aussi, finalement, parce qu'il faut trouver un endroit, il faut trouver des gens qui savent s'occuper d'eux. Ils sont en danger, physiquement. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment comme des enfants dont les perceptions sont tout à fait faussées. À la fois, il y a une désorientation spatio-temporelle qui s'installe, et puis la vie ordinaire, la vie banale, devient un danger permanent. Ma mère fait des tartines avec du savon, elle pose la bouilloire électrique directement sur une plaque, l'appartement s'enfume, enfin, voilà. La différence avec des enfants, c'est que vous pouvez éduquer, vous pouvez apprendre, et petit à petit, ils sont avertis. Alors que là, vous allez vers une dégradation de plus en plus grande de toutes les facultés cérébrales.
Et vous décrivez cette sensation que beaucoup d'adultes décrivent quand leurs parents atteignent un certain âge, qu'ils sont en train de devenir les parents de parents. Et vous découvrez alors l'enfer aussi de la mise sous tutelle, qui est administrativement un enfer, une perte de temps absolue.
C'est très très long. Il est normal de protéger les personnes dépendantes, de ne pas les laisser la proie d'abus de faiblesse, d'abus de confiance, etc. Donc ça, c'est bien normal que la justice s'empare de cet aspect-là de la maladie. En revanche, les démarches pour y aboutir, c'est kafkaïen, c'est l'enfer.
On vous demande d'envoyer des fax, personne ne répond au téléphone.
Des fax, le tribunal ne répond que le mardi matin, si vous avez loupé le truc, voilà, enfin, ça vous reporte d'une semaine. Bon. Et d'ailleurs, lorsque nous nous sommes engagés dans ce long tunnel administratif, lorsque nous avons eu rendez-vous avec une juge des tutelles, qui était d'ailleurs très gentille, très sympathique et très compréhensive. Notre père était mort depuis déjà 16 jours. Voilà, et c'était le rendez-vous pour le mettre sous tutelle.
Alors, quelques temps plus tôt, vous avez, avec vos frères et sœurs, et encore une fois, la difficulté d'administrer la vie quotidienne de vos parents à 800 km de distance. Donc, vous vous dites, il faut trouver un établissement. Vous visitez des EHPAD, 28 en tout.
Oui, heureusement qu'on était trois.
Trois mois,
oui. Oui, voilà, quand des enfants sont des enfants uniques, je pense que c'est très très difficile pour eux, d'abord parce qu'ils ne peuvent pas partager la charge psychologique et assumer tout ce chemin administratif dont on parle.
Vous avez de la chance d'être à la fois trois, mais d'être aussi très unis.
Nous sommes unis. Nous sommes issus d'un milieu socio-culturel qui nous permet d'avoir les outils, l'appareil critique pour faire face à tout ça. Mais ça n'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà, d'une certaine façon, on a de la chance.
Donc ces EHPAD que vous visitez, vous en décrivez un, il fait sombre, c'est une version infernale de la caverne de Platon. Ici, la réalité ne pénètre plus, ni même son reflet. L'odeur est un mélange d'urine, de gaz et de déodorant chimique. À l'entrée, derrière la porte à verrouillage numérique, une allégorie de la souffrance, tête renversée, yeux exorbités, bouche ouverte, lance ses membres squelettiques aux quatre points cardinaux d'une terre désaxée, tel un personnage de Jérôme Bosch. Vous êtes sidéré.
On est atterré, ouais. on est horrifié en fait. C'est une vision d'horreur qu'on a là, et on se dit, mais jamais, jamais nos parents dans un endroit comme ça.
Vous entendez des infirmières poser des devinettes aux personnes dans les couloirs.
Ça, c'est dans toutes les maisons de retraite, seulement dans les maisons médicalisées. On a visité beaucoup et partout, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous avez un public de gens, pour la plupart, en fauteuil roulant, beaucoup de personnes qui n'entendent pas très bien. Et un animateur ou une animatrice qui pose des devinettes un peu simplettes.
C'est un animal qui a des cornes et qui court très vite dans la savane.
Voilà.
À vous, vos parents, vous pensez à vos parents jadis abonnés à tous les spectacles du TNP de Jean Vilar puis de George Wilson à Chaillot. Et vous vous dites, c'est pas possible.
C'est pas possible. Pourquoi on leur montre pas des films? Pourquoi on leur fait pas écouter de la musique au lieu de leur mettre une chaîne de téléachat à plein tube dans la chambre? Ça, c'est des choses qui coûtent pas très cher et qui pourraient, je pense, améliorer l'environnement de ces malades, c'est-à-dire respecter ce qu'ils ont été, parce que eux-mêmes ne le savent plus, nous l'oublions progressivement, et écrire ce livre, ça a été aussi une façon de fixer ce qu'ils étaient, parce que
Pierre et Lily,
voilà, toute leur mémoire, comme pour tout le monde, construisait leur identité, et que petit à petit cette identité s'est délitée, et qu'il faut essayer d'en sauver ce que l'on peut.
Et sur cette mémoire, vous apprenez d'ailleurs que chaque malade évolue en fonction de sa réserve cognitive. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que si vous connaissez plusieurs langues vivantes, que vous avez lu beaucoup de livres, regardé beaucoup de films et que vous faites travailler votre cerveau régulièrement, vous avez une résistance plus grande au grignotage de la maladie.
Et donc, vos parents ne vont pas évoluer de la même façon, pourtant ils ont le même bagage culturel. Et vous expliquez aussi que la mémoire fonctionne étrangement. Quand un médecin parle à votre père de De Gaulle ou de Mitterrand, il ne voit pas de qui il s'agit. Mais quand le médecin lui dit Jean Gabin, votre père, il dit il était artiste de cinéma,
voilà,
en faisant la liaison. Oui. Ce sont les souvenirs autobiographiques qui prennent de l'importance dans ces cas-là.
Alors, les souvenirs autobiographiques, ça c'est tout à fait certain. Et surtout... le tempérament, le caractère. Vous savez, Héraclite disait le caractère de l'homme et son destin. Et ça a été très vrai pour mes parents, qui étaient issus de milieux à peu près comparables, pas, enfin, assez modestes d'une certaine façon, mais qui s'étaient beaucoup cultivés par eux-mêmes, qui avaient vécu dans cette société des Trente Glorieuses où, d'une certaine façon, les choses étaient plus faciles. Et leur maladie les a finalement, d'une certaine façon, amenés à l'os de leur être, à leur essence même. C'est-à-dire que mon père, qui était quelqu'un d'assez autoritaire, d'assez dur, quelqu'un qui s'était construit lui-même, tout à coup, quand il a compris, car lui n'était pas anosognosique, il se rendait compte qu'il avait Alzheimer. Et donc, il s'est d'une certaine façon laissé mourir. Alors que ma mère a construit un monde merveilleux. Mmh. Et ça a commencé d'ailleurs très très tôt, dès la première consultation à l'hôpital de jour d'Aix. On lui demande quel est son niveau d'études. Et elle dit, j'ai fait HEC, une grande école de commerce, alors qu'elle n'a pas son bac.
Elle s'est construit un monde merveilleux et la puissance poétique aussi du cerveau de vos parents qui est capable de formuler des phrases sublimes. On est deux petites âmes dans un grand espace, dit votre maman, ou quand vous demandez à votre mère comment elle va, elle dit « j'ai pas de mauvais soupir qui se balade ».
Oui, et d'ailleurs le titre du livre « La tête qui tourne et la parole qui s'en va », ça c'est une phrase de ma mère, c'est-à-dire que malgré son anosognosie, elle se rend compte que quelque chose ne tourne pas rond. Et ce langage poétique, ça c'est assez curieux parce que j'en ai parlé avec la gériatre qui soigne beaucoup de malades d'Alzheimer. C'est un trait commun à un grand nombre d'entre eux. C'est-à-dire qu'il se produit comme une sorte de choc poétique, une déstructuration du langage qui amène à ces formulations merveilleuses et à la reconstruction d'un monde dans lequel il faut essayer, enfin de mon point de vue, de suivre ces personnes. Vous ne pouvez pas les ramener à vous. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que malheureusement c'est irréversible cette maladie. On ne sait pas la soigner. Les médicaments, alors je ne suis pas médecin donc je ne vais pas prendre position là-dessus, mais on nous a dit très vite, ils ne servent à rien. Ils ont beaucoup d'effets secondaires aussi, pour certains qui pourraient avoir un effet.
On en parlera tout à l'heure, oui, des voilà. Médicaments.
Voilà, et donc, le seul pouvoir que vous avez finalement, c'est d'accompagner au mieux et de suivre vos proches dans le monde dans lequel ils s'enfoncent inexorablement.
Et d'ailleurs, il y a beaucoup de joie, Béatrice Guret, aussi entre les lignes, entre deux pages, entre deux chapitres. Vous arrivez avec vos frères et sœurs à apporter de la joie à vos parents. C'est Céline qui disait « on n'a plus beaucoup de musique en soi pour faire danser la vie quand on devient vieux ». Sauf que votre maman, elle en a toujours.
Sauf que, voilà, il y a des réserves qui semblent tout à fait inépuisables d'amour, d'affection, de tendresse, de mots doux, de petits câlins. Et au fond, quand ça surnage, on est heureux.
Alors c'est en mai 2015 que vos parents entrent à l'EHPAD dans une banlieue chic de l'Ouest parisien où coule la Seine et vous ne savez pas ce qui les attend. Vous tâchez d'aménager la chambre au mieux, vous faites en sorte qu'ils se sentent chez eux, vous ouvrez grandes les fenêtres. Mais quelques instants après, vous voyez arriver un monsieur muni d'un escabeau et d'une caisse à outils.
Et il pose des sortes de pattes métalliques sur les fenêtres pour qu'elles ne s'ouvrent plus que de quelques centimètres. Et à ce moment-là, étrangement, j'ai compris physiquement ce qu'était la prison de cette maladie, le sentiment que mes parents avaient d'être des prisonniers, en particulier mon père. Mais mon frère et ma sœur, en fait, étaient descendus avant moi et ils avaient peur que nos parents se jettent par la fenêtre du quatrième étage. Je peux comprendre cette angoisse, mais c'est très violent la fermeture des fenêtres. Je peux pas expliquer ça très bien, mais tout d'un coup l'univers se rétrécit d'une façon prodigieuse. C'est-à-dire qu'ils vivaient dans un endroit très beau, ils voyaient la montagne Sainte-Victoire, ils voyaient cette campagne aixoise très belle, ses couleurs peintes mille fois par Cézanne, et tout d'un coup ils se retrouvent dans une chambre, malgré nos efforts, assez impersonnels, et ils ne peuvent plus ouvrir la fenêtre. C'est assez terrible.
De la montagne Sainte-Victoire à la chambre 407, sans fenêtre. Il y a aussi ces portes battantes en verre qui ne s'ouvrent que si le réceptionniste appuie sur un petit bouton accessible à lui seul. Les évasions, les fugues, ce sont des symptômes bien connus de la maladie. Et vous leur trouvez peut-être une explication, la vôtre en tout cas, votre interprétation.
En tout cas, ces malades se sentent prisonniers. J'ai vu, pas seulement avec mes parents, mais avec de nombreux patients qui sont dans cette résidence, le désir de s'échapper tout le temps. Mon père dit « Ah, on sort de la prison quand on s'en va ». J'ai vu une femme encore jeune qui voulait se dégager assez brusquement d'une aide-soignante qui voulait la forcer à rentrer. C'est quelque chose de terrible parce que c'est assez simple au fond. Évidemment, il faut du personnel, mais il faut emmener ces gens dehors. Ils se sentent enfermés dans cette maladie. Il y a un syndrome de claustration qui est d'une force, qui fait souffrir vraiment. Et on empêche ces gens de sortir. Alors, j'ai vu un monsieur l'autre jour qui était un chef d'entreprise, donc qui avait l'habitude de donner des ordres, etc. Alors, on lui dit « Non, monsieur, il faut rentrer. » Il dit « Eh bien, écoutez, puisque c'est comme ça, vous êtes congédié. » Alors voilà, il s'imaginait qu'il pouvait mettre à la porte cette pauvre hôtesse, qui fait son travail, naturellement. C'est pas toujours facile, vous savez, de s'occuper de malades d'Alzheimer.
Oui, vos parents n'ont pas échappé à la maltraitance.
Alors, voilà, c'est-à-dire que vous avez les deux volets, finalement, dans tout cela. Des gens qui sont admirables, d'un dévouement extraordinaire, qui font même plus, voilà. Alors, Najla, Choukri, pour les citer, Caroline, et d'autres, dont d'ailleurs je ne connais pas les noms, qui traitent mon père comme s'il jouait la comédie, alors qu'il souffre horriblement. Il est tombé dans le jardin. En fait, il a fait un AVC qui n'est pas détecté. Et on le met dans une chaise roulante et c'est le début de la fin. Et les manipulations sont très, très douloureuses. Mais ces personnes font comme si... ce vieillard totalement dépendant qui est devenu mon père, ce qui est totalement incroyable pour moi d'ailleurs, cette transformation si rapide, c'est un choc immense. On le traite comme s'il jouait à la comédie et qu'il se plaignait à outrance.
dans un avoué nu avec Xavier Emmanuel, Xavier Emmanueli, le fondateur du SAMU social. Il tâchait d'expliquer un petit peu ce que pouvait être ou pouvait trouver ses sources, cette maltraitance si commune aujourd'hui chez les personnes âgées. Il disait, j'essaye d'apprendre à ceux qui s'occupent des personnes âgées qu'elles ont une énergie finissante, alors que eux, les jeunes, ont leur énergie du début. Les gens vous vampirisent, ils essayent de capter la vie qu'ils sentent du fin fond de l'archaïsme qui vous retient sur terre, et c'est comme ça qu'on va à la maltraitance. Vous restez avec nous, Béatrice Guret. Si vous voulez bien, après le journal, nous parlerons des avancées de la science et du déremboursement des médicaments dits anti-Alzheimer qui entrent en vigueur aujourd'hui. Et puis nous passerons un coup de fil à Lille au chercheur Luc Buet. À tout à l'heure.